La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, une nouvelle approche de Dieu, Raison et raison, texte de Maritain après la Seconde Guerre mondiale. Nous allons entrer plus avant dans ce texte qui commence quand même par un « si », « si la civilisation doit exister ». Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Pendant ces temps qui sont pour nous difficiles, c'est un texte qui redonne une profonde espérance dans le sens du monde, le sens de la vie et le rapport au monde, du jeu et du monde. Je vais continuer parce que Maritain va approfondir cette intuition de l'être. Il va l'approfondir finalement dans le sens du dynamisme. Et c'est très important parce que souvent, on a opposé existence et essence en disant « bon, c'est fixe, ce sont deux dualités incompressibles et on pense existence à partir de l'essence, on tombe dans un idéalisme, ce réalisme ne tient pas la route parce qu'il y a des préjugés ». Et je crois que retrouver le dynamisme de l'existence, c'est donner une force pour l'existentialisme et pour la philosophie réaliste. Maritain écrit « Ce n'est pas là une nouvelle manière d'approcher Dieu. C'est la voie éternelle de la raison humaine pour approcher Dieu. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont l'esprit moderne est devenu conscient de la simplicité et du pouvoir libérateur du caractère naturel et en quelque sorte intuitif de cette approche éternelle. » Et Maritain va opposer la science des anciens, qui plongeait finalement dans l'ontologie, avec la science des modernes, qui est déconnecté, pour utiliser un vocabulaire moderne, de l'ontologie. Et cela rejoint finalement une polémique récente en France entre Quentin Meillassou et Michel Bidbol, où vous avez eu finalement un effort de retrouver le réalisme en science, défendu par Quentin Meillassou, à qui Michel Bidbol a répondu avec un long ouvrage de 600 pages que non, ce n'était pas possible, on était dans des systèmes relatifs qui émanaient finalement du sujet. Et pour moi, la requête de Quentin Meillassou est déjà pipée de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il va penser le réalisme en science de manière univoque. Alors que vous l'avez peut-être noté dans l'émission précédente de la semaine dernière, quand Maritain parle de cette intuition de l'être, il écrit, je relis la phrase, nous avons une perception intuitive du contenu essentiellement analogique du premier concept, le concept de l'être. Le petit mot essentiellement analogique, c'est très important parce que l'analogie permet de penser l'être et pour le dire rapidement, quand Frédéric Neff reprend dans Qu'est-ce que la métaphysique, un ouvrage de synthèse paru en 2004 où il essaie de faire un panorama de la métaphysique. Quand il s'arrête sur l'analogie, eh bien il dit finalement on peut résumer le thomisme à une philosophie analogique. Univocité, analogicité ou analogie, équivocité, qu'est-ce à dire ? Univocité, c'est quand je fais x égale y et qu'il n'y a qu'un seul sens, 1 égale 1. Équivocité, pour faire simple, c'est ce que vous avez quand vous avez un mot qui va renvoyer à plusieurs référés ou comparés. Un comparant décomparé. Par exemple, je vous dis bleu, ça peut renvoyer au bleu de Bresse, au bleu de la mer, au bleu des yeux, je ne sais. Voilà, un bleu, c'est un marin. Et puis, analogie, c'est ce qui permet de penser, en fait, l'un et le multiple. De penser Dieu et l'homme. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes à l'image de Dieu, en philosophie chrétienne. Et du coup, le concept d'analogie permet de penser l'être comme un qui va s'incarner, si on peut dire ainsi, dans différentes substances, dans différentes choses, dans différents matériaux. Et c'est un concept difficile sur lequel nous reviendrons probablement au mois de février si nous tenons nos horaires. Je reprends donc ce texte où Maritain insiste sur la façon nouvelle pour la modernité d'appréhender l'être et il dit que la découverte de la valeur de l'existence ne signifie pas seulement la redécouverte de Dieu, elle signifie aussi la redécouverte de l'amour. Quand l'intuition de l'être et de l'existence se produit en moi, elle entraîne normalement avec elle une autre intuition, l'intuition de ma propre existence ou du moi, l'intuition de la subjectivité en tant que subjectivité. Or, la subjectivité en tant que telle n'est pas un objet présenté à la pensée, mais plutôt la source elle-même de la pensée, un centre profond, inconnu et vivant, qui surabonde en connaissance et surabonde en amour, et n'atteint que par l'amour à son suprême niveau d'existence, l'existence comme se donnant. Je ne sais pas si vous mesurez la force de cette écriture. L'existence comme se donnant, pour ceux qui ont entendu un peu parler de la donation, c'est Jean-Luc Marion, du phénomène qui se donne, de l'apparaître, on a presque une écriture de phénoménologie. Et c'est très fort de la part de Maritain, qui est suffisamment, j'allais dire, humble en tant que philosophe, pour avoir la tête dure et la forme souple, c'est-à-dire le cœur souple, le cœur tendre. Il est capable, parce qu'il ne cherche pas à faire du style, simplement de se mettre tellement à l'écoute de la langue de ses contemporains qu'il va aller jusqu'à prendre finalement une écriture qui évoque celle de la donation que l'on a en phénoménologie. Et j'ai remarqué ça plusieurs fois dans des ouvrages qu'on appelle de la deuxième partie de Maritain, cette partie qui est marquée par son séjour aux États-Unis et qui va finalement de l'après-guerre jusqu'à son retour en France, à Toulouse, quand il devient petit frère de Foucault. Et cette écriture, vous l'avez aussi, pour ceux qui veulent lire pendant les vacances de Noël, dans la philosophie morale, dans les derniers chapitres. Vous avez une écriture, on sent un écrivain, un poète, quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire du style, au contraire, il a banni le style en philosophie, mais il admirait Bergson, et Bergson a un style particulièrement beau. Et là, vous avez finalement une écriture tout à fait intéressante pour montrer sa porosité à l'altérité, à d'autres pensées, tout en gardant le cap, parce que le thomisme n'est pas une philosophie qui va progresser, mais qui ne peut que s'approfondir. Si vous voulez, c'est un progrès par approfondissement. Et ce progrès d'approfondissement, il se fait justement dans le dialogue contradictoire avec ses pairs, avec ses contemporains, d'où le choix de cette œuvre pour mieux éclairer le rapport entre philosophie et théologie. Et Maritain explicite. Voici ce que je veux dire. La connaissance de soi-même, en tant qu'elle est une analyse purement psychologique de phénomènes plus ou moins superficiels, un vagabondage à travers les images et les souvenirs, n'est, quelle que puisse être sa valeur, qu'un savoir égotiste. Mais quand elle devient ontologique, la connaissance du moi est transfigurée, impliquant alors l'intuition de l'être et la découverte de l'abîme actuel de la subjectivité, et elle est en même temps la découverte de la générosité foncière de l'existence. Nous allons un cran plus loin après la plage musicale de Maurice Ravel, les chansons grecques.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Chanson grecque qui nous parle de l'amour, et Maritain nous parle de l'amour avec cette sortie de soi à la fin des degrés du savoir. Il a une magnifique expression quand il parle de Saint Jean de la Croix. Il parle de l'expropriation du soi. Et c'est vraiment une formule que l'on peut retenir qui représente bien la tangente de Maritain, aussi bien dans sa philosophie, qui est une philosophie réaliste, donc ouverte au réel et à l'être subsistant qu'est Dieu et aux autres. Donc cette expropriation du soi, voilà comment métaphysiquement il l'écrit dans Raison et Raison, chapitre 6, une nouvelle approche de Dieu. La subjectivité, ce centre essentiellement dynamique, vivant et ouvert, donne et reçoit tout ensemble. Elle reçoit par l'intelligence, en surexistant en connaissance. Elle donne par la volonté, en surexistant en amour. C'est-à-dire en ayant au-dedans d'elle d'autres êtres, comme attraits intérieurs à surabonder vers eux et se donner soi-même à eux, et en existant spirituellement à la manière d'un don. Et il est meilleur de donner que de recevoir. L'existence spirituelle d'amour est la suprême révélation de l'existence pour le moi. Le moi étant non seulement un individu matériel, mais aussi une personne spirituelle, se possède lui-même et se tient lui-même en main, en tant qu'il est spirituel et qu'il est libre. Et à quelle fin se possède-t-il et dispose-t-il de lui-même, si ce n'est pour ce qui est meilleur, en toute vérité, absolument parlant, à savoir pour se donner lui-même. Ainsi, arrive-t-il que lorsqu'un homme a été réellement éveillé au sens de l'être ou de l'existence, et qu'il saisit intuitivement l'obscure et vivante profondeur du moi et de la subjectivité, il expérimente, en vertu du dynamisme interne de cette intuition, que l'amour n'est pas un plaisir qui passe, ou une émotion plus ou moins intense, mais la tendance radicale et la raison foncière inscrite dans son être même pour laquelle il est en vie. Le voilà de nouveau un homme tout à la fois ontologique et érotique. Le voilà de nouveau un homme. Force donc de cette intuition de l'être. Vous le sentez dans ce magnifique texte où Maritain fait la synthèse des deux mouvements qui sont internes à l'intuition de l'être, la connaissance, donc l'ontologie, et l'érotisme au sens de l'homme est un être de désir, est un être finalisé vers cette contemplation, ce face-à-face que nous aurons dans In Patria, de l'homme fait pour voir Dieu, pour contempler Dieu. Et à ce titre, je rappelle que dans un texte « Horizon et liturgie » écrit avec Raïssa, donc un texte à quatre mains, où le couple Raïssa et Jacques Maritain réfléchit sur la liturgie, eh bien, il écrit que l'Eucharistie est faite pour la terre et que l'horizon infuse, donc la contemplation, elle est de la terre et du ciel. Elle sera maintenue au ciel. Et c'est important de le rappeler en des temps où la messe n'est pas forcément quotidienne. Nous sommes in via et le viatique eucharistique fondamental, je ne vais pas polémiquer là-dessus, est fait pour la terre. Alors que nous vivons de l'horizon et l'horizon dure puisqu'on est fait pour cela. Et c'est pour cela que à la fin des degrés du savoir, Maritain décrit dans l'horizon et dans la mystique telle que Saint Jean de la Croix nous l'a transmise et nous l'a éclairée par ses poèmes et par ses livres, finalement un mode de connaissance. C'est un mode supplémentaire de connaissance, hein. Il y a la connaissance rationnelle, il y a la connaissance, on va dire, infuse par co-naturalité, hein, qui n'est pas rationnelle mais qui est infrarationnelle. Et Maritain prendra l'exemple de Antigone avec la loi non écrite des dieux qu'elle oppose à Créon. Il y a des choses qu'on sait par co-naturalité. Et puis il y a une autre connaissance, c'est celle de la mystique, qui a pleinement droit à sa dimension cognitive, comme le rappelle Maritain. Donc ici, l'être est un être ontologique et un être érotique qui va le mener à la connaissance et à l'amour. Maritain conclut cette page. Non seulement il connaît, en vertu de sa primordiale saisie intellectuelle de l'existence, que Dieu existe et est l'être absolu, l'exister lui-même subsistant par soi, il connaît aussi que, de par ce fait même, Dieu est absolue générosité ontologique et l'amour subsistant. Et qu'un tel amour transcendant cause, pénètre et active de l'intérieur toute créature, qui, en réponse, aime Dieu plus qu'elle-même, de telle sorte que cet amour pour Dieu, cet éros naturel et universel, est la vertu même et la plus intime vitalité dans laquelle tous les êtres désirent et aiment, agissent et luttent. Donc sur le propre terrain de l'existentialisme, voilà que Maritain reprend Kierkegaard, Heidegger, Sartre et Camus, mais l'énergie, ce mouvement dynamique, on pourrait dire cette finalité de l'amour et de l'existence à partir d'un approfondissement de la prise en conscience de l'existence par l'intuition de l'être.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Comment donc la nouvelle approche de Dieu qu'entrevoit Jacques Maritain après la guerre dans Raison et Raison peut-elle sauver la civilisation? C'est un texte qui est scandé par « Si la civilisation doit être sauvée ». On sent quand même une angoisse et Maritain, après avoir montré que l'intuition de l'être permet à l'homme de se savoir comme être ontologiquement situé et comme être érotique, c'est-à-dire destiné et fait pour l'amour, Maritain va regarder maintenant au plan culturel, au plan plus général de l'histoire des idées et des conditions de l'exister après la guerre, ce qu'on peut entrevoir. Si la civilisation doit être sauvée, le nouvel âge de civilisation sera un âge d'humanisme théocentrique. Aujourd'hui, la dignité humaine est partout, foulée aux pieds. Bien plus, elle s'écroule du dedans, car dans la pure perspective de la science et de la technique, nous sommes bien désemparés pour découvrir les fondements rationnels de la dignité de la personne humaine et pour croire en elle. On peut remarquer l'actualité de ces phrases. La tâche d'un nouvel âge de civilisation, qui n'est sans doute pas pour demain, mais peut-être pour après-demain, consistera à retrouver et à fonder de nouveau le sens de cette dignité, à réhabiliter l'homme, je veux dire en Dieu et par Dieu, non séparément de Dieu. Ce qui signifie une complète révolution spirituelle. Alors, toutes les conquêtes de l'époque précédente seront à la fois purifiées et sauvées, rachetées des erreurs de cette époque et transfigurées, portées à un nouvel épanouissement. Cet âge sera un âge de dignification de la créature dans sa relation vivante avec le Créateur. Vous remarquez les mots « relation vivante ». Et je pense que ce n'est pas une utopie. On n'est pas dans un discours utopique, on est dans un discours fondé sur l'Évangile. en tant que vivifié par le Créateur et en tant qu'ayant en lui la justification de son existence même, de son travail sur la terre, de ses aspirations essentielles et de sa poussée vers la liberté. Il sera de nouveau, du moins pour ceux qui seront capables de comprendre, un âge d'humilité et de magnanimité, mais avec une nouvelle conscience des potentialités humaines et de la profondeur, de la grandeur et de l'universalité des problèmes humains. La nouvelle approche de Dieu sera une nouvelle approche du vrai Dieu de la tradition judéo-chrétienne, du vrai Dieu de l'Évangile, dont la grâce parfait la nature et ne la détruit pas, transcende la raison, mais pour la fortifier, non pour l'aveugler ou l'anéantir, fait progresser la conscience morale au cours du temps et conduit l'histoire humaine, c'est-à-dire l'effort incessant et sans cesse contrarié de l'humanité vers l'émancipation, dans la direction de son accomplissement supratemporel. Cette nouvelle approche ne procédera ni dans l'adoration des créatures, qui a été la sottise de notre temps, ni dans ce mépris amer que trop de chrétiens confondent avec la divine folie des saints, mais dans une compréhension et un respect plus profond de la créature, dans une plus grande attention à découvrir en elle chaque vestige de Dieu. Et à ce titre, on peut déjà faire de ces lignes une attention finalement à la planète. Je pense aux assises de la biodiversité qui se sont tenues récemment à Paris et où une des définitions des parcs nationaux a été donnée contre une définition finalement de laboratoire scientifique ou contre une définition à l'américaine d'un parc préservé de toute présence humaine. En France, les parcs nationaux essaient de mêler la présence de l'homme et la nature. Et la définition la plus juste était donnée par un spécialiste en disant « Le parc national est un lieu où l'on fait attention. Attention à la pierre, à l'oiseau, à l'homme. » Et cette attention nous permet de dépasser une autre tendance que l'on voit se développer sur un développement de la sensibilité, où il y aurait des natures au lieu de la nature. Une fois de plus, quelque chose finalement qui veut lutter contre la métaphysique, contre une idée fausse de la dissociation essence-existence et même de l'existence, en développant la sensibilité. C'est bien, mais ce n'est pas suffisamment profond. Il faut aller plus au cœur. Le sens extérieur ne peut pas nous permettre de fonder une politique comme le souhaitent ces tenants finalement de la redécouverte de la sensibilité. Ici, vous avez une attention. Et dans l'attention, il y a tout l'engagement de l'homme. Et Maritain conclut pour cette partie, donc qui va terminer notre émission, sur finalement la philanthropie de Dieu. Je vous cite cette dernière phrase. L'homme comprendra qu'il monte vers sa propre plénitude et vers Dieu d'autant mieux qu'il épouse lui-même le mouvement de descente de l'amour incréé pour donner ce qu'il est et ce qu'il possède. Il comprendra qu'il ne peut édifier que pour une telle effusion la générosité de l'Évangile, en accoutumant la vie humaine aux mœurs divines, apparaît en même temps comme une manifestation de la philanthropie de notre Dieu, comme dit saint Paul, et elle correspond à cette réhabilitation et à cette dignification de la créature en Dieu dont j'ai parlé plus haut. L'homme trouvera de nouveau son unité intérieure en préférant définitivement la perte de soi qui résulte de l'amour évangélique à la réalisation rationaliste de soi qui est la conquête d'une illusion et d'une déception et à la réalisation irrationaliste de soi qui est une perte dans le désespoir et l'absurdité. À la semaine prochaine.